Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne.
Aujourd'hui Didier, on va parler d'un sujet qui nous préoccupe tous.
Clairement.
Oui, la retraite. Alors, comment ça se passe au Japon, en Chine et en Corée?
Ah, tu m'intéresses.
Oui, bah, c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe ailleurs.
Bah oui, puis plus on vieillit, plus ça nous intéresse quand même.
C'est vrai. Bon, j'ai mené mon enquête, chers
Parfait.
Auditrices et auditeurs. Et toi, Didier, bah, tu vas nous ramener à une période sombre, et pas si lointaine, qui nous a marqué, celle des Boat People et du rôle de l'association Médecins Sans Frontières.
Tout à fait. Donc, avant de parler des Boat People, on va parler retraite. Depuis quand, en fait, Corinne, existe la retraite dans ces trois pays? Parce qu'on va survoler l'ensemble des trois pays, comme on le fait souvent. Pour se repérer, en France, elle existe depuis 1945, avec la création de la Sécurité sociale. Ça, c'est notre cas. Alors maintenant, dans les autres pays, ça donne quoi? Je crois qu'on commence par le Japon.
Oui, on commence par le Japon, parce que c'est le premier des trois pays à avoir institutionnalisé la retraite à la fin du 19e.
Ah,
Didier,
donc des
précurseurs, presque.
D'accord.
Alors, c'est donc à l'ère Meiji que l'État japonais va mettre en place des pensions pour les fonctionnaires dans le cadre de sa modernisation.
Okay.
Alors le Japon a été sans doute le premier pays asiatique à garantir une couverture vieillesse et ça explique pourquoi le système japonais est aujourd'hui très étendu mais aussi très sollicité par sa population extrêmement vieillissante.
Oui, forcément, on l'a déjà évoqué.
Donc quand je dis très étendu, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées au Japon. Alors avant cela, le Japon avait longtemps reposé la gestion de la prise en charge des personnes âgées sur la solidarité familiale, comme dans beaucoup d'endroits, comme dans tous les endroits d'ailleurs, selon les principes de respect filial hérités du confucianisme. C'était très pointillé là-dessus.
D'accord.
Et suivra donc la Chine en 1949 et la Corée en beaucoup plus tard, en 1988, Didier.
Ouais, c'est lié à un tas de choses, mais on va en reparler.
Voilà,
parce que restons sur les Japonais,
qui
étaient donc finalement très en avance. Et qu'est-ce qui les a motivés pour mettre leur système de retraite en place, en fait?
Oui, alors ils étaient en avance sur nous, donc en 1875, que l'État japonais a mis en place son premier système de pension inspiré du modèle allemand.
Ah.
Parce qu'il y avait déjà des pensions de retraite en Allemagne.
D'accord.
Et ce premier système visait à garantir un revenu seulement aux hauts fonctionnaires.
Ah oui, c'était pas pour tout le monde.
C'était pas du tout pour tout le monde, c'était que les hauts fonctionnaires pour renforcer la loyauté. Très important la loyauté au Japon.
Bien sûr.
C'est une des vertus. Alors cela ne concernait bien sûr pas les ouvriers ni les agriculteurs qui constituaient pourtant à l'époque la majorité de la population active.
On l'imagine, bien sûr.
Alors c'est avec l'industrialisation du pays que des grandes entreprises ont commencé à instaurer des systèmes internes d'indemnités de fin de carrière pour fidéliser leurs salariés. Donc c'était propre à chaque entreprise,
bien
on peut
sûr.
Dire.
Okay.
Alors la Seconde Guerre mondiale va perturber la généralisation du système qui était quand même un peu prévu. Mais en 1947, la nouvelle constitution, rappelez, c'était juste après la guerre, la nouvelle constitution va reconnaître le droit à une vie décente pour tous, ce qui va donc engendrer un véritable système de sécurité sociale et de retraite. Donc en 1954, le gouvernement va mettre en place la pension des salariés, un régime obligatoire destiné aux travailleurs qui sera financé par des cotisations partagées entre employeurs et salariés, un petit peu sur le même modèle que nous.
C'est ce que j'allais dire.
Voilà.
Ça ressemble à notre modèle. Mais
les agriculteurs, les travailleurs indépendants et les personnes sans emploi stable restaient encore exclus. Donc c'était pas du
On
tout
n'était
généralisé.
Pas encore au bout.
Voilà. Alors pour combler cette lacune, l'État va créer en 61 la pension nationale de base, réforme déterminante car elle a instauré une couverture universelle donc pour tous, pouvant être cumulée avec une pension complémentaire.
D'accord.
Alors, a priori, comme ça, oui, ça ressemble à notre système, mais on va voir que c'est pas tout à fait quand même la même chose.
J'ai bien compris que, comme chez nous, un peu, hein, puisqu'en France, on a les mêmes difficultés aujourd'hui, mais ils sont peut-être pas encore aussi importantes, ils ont dû faire face à un problème de démographie qui est grandissant, qui est toujours là. Et on se demande comment. Est-ce que les systèmes étaient viables ou pas? Enfin, quel constat aujourd'hui?
Alors tout ça, c'était jusqu'en 1980, ça a super bien marché.
80, d'accord.
Les Japonais pouvaient même partir en retraite à 60 ans.
Ah oui.
Ça nous étonne un peu quand même. Mais c'était en 1980.
J'allais dire, en 81, nous, on l'a eu la retraite à 60 ans.
Oui, mais on y imagine toujours quand même que les Japonais travaillaient très tard depuis
longtemps. C'est vrai, c'est pas l'image qu'on a, je te l'accorde.
Voilà, donc ils partaient en 1980 à 60 ans. Okay. Mais avec le vieillissement de la population, la baisse de la natalité combinée à l'allongement de l'espérance de vie,
bien sûr, oui.
Il n'y a plus l'équilibre entre cotisants et retraités, et ça ressemble à chez nous, on est d'accord.
C'est un mal qui est récurrent partout. C'est
exactement. Alors face à ces évolutions, le gouvernement a engagé des réformes, dont le report de l'âge légal de départ à 65 ans.
Donc ils sont à 65 ans.
Exactement. Okay. Et cela va continuer à se gâter et à se durcir. Parce que aujourd'hui, il y a un tiers de la population qui a plus de 65 ans au Japon.
Un tiers de la population.
Donc c'est beaucoup.
Bien sûr.
Alors pour faire face à cette situation, l'État encourage le travail des seniors et ajuste régulièrement à la baisse les paramètres du système. Donc ça se gâte sérieusement là-bas. Et le total des retraités ayant au moins une forme de pension publique au Japon dépasse facilement les 50 millions sur les 129 millions d'habitants. Donc c'est énorme le nombre de personnes pensionnées.
D'accord. Bon, alors, on a parlé de l'âge, tout ça, mais alors, quel montant moyen des pensions au Japon? Parlons argent en 2025, on touche quoi?
Oui, alors pour une personne qui a une carrière complète, la pension de base moyenne est d'environ 370 €, Didier.
Oh là là.
Et avec les pensions complémentaires, ça correspond alors à 1 240 € en moyenne.
Ah, okay.
Mais tout le monde n'a pas de complémentaire.
Eh oui, et quand on sait les difficultés actuelles qu'ils ont avec l'inflation, et bon, pour les touristes, c'est bien, mais pour eux, sur place, c'est compliqué.
Voilà. Et donc en fait, c'est une moyenne, mais c'est plus 370 que 1 240.
Oui, je comprends bien.
Ce qui explique le nombre croissant de personnes âgées travaillant au-delà de 70 ans.
On peut l'imaginer avec 370.
Parce que 370 € n'est pas du tout suffisant pour vivre.
Ça.
Ce qui fait que chez les personnes âgées, il y a beaucoup, beaucoup de précarité. Parce que c'est des personnes, c'était pendant la guerre, ils n'ont pas eu d'emploi stable, ils n'ont pas cotisé suffisamment. Pour rappel, le minimum chez nous, c'est 1 000 €.
Oui, bien sûr. Alors, par rapport à 370, ça fait une sacrée différence quand même.
Une sacrée différence.
Alors ça, c'est un sujet qu'on avait parlé tous les deux, que j'avais découvert. Et puis j'ai dit, mais c'est pas possible, Corinne, faut qu'on en parle.
Faut qu'on en parle.
Et c'est ce qui a fait que tu as travaillé sur les retraites comme ça, parce que j'avais vu que des personnes âgées préféraient vivre en prison tant c'était difficile pour elles. Alors là, ça m'avait estomaqué, j'avoue.
Oui, il y a, je dirais, malgré tout, peu de choses à dire, parce que c'est très simple.
Oui.
On imagine quand même le Japon prospère, mais il existe une vieillesse très invisible qui choisit la prison comme refuge par nécessité. Ils sont souvent sans famille, avec des pensions trop faibles, 370 €.
Bien sûr.
Et demander de l'aide, il faut savoir que c'est une honte au Japon. Et la prison...
Oui. Et la prison, en fait, finalement, ça leur offre un asile, quoi, presque.
C'est ça, ce que la société ne peut pas leur garantir.
C'est ça.
Donc, ils y trouvent un toit, de la chaleur, 3 repas par jour, des soins et de la présence.
Oui.
Voilà. Donc, ils y rentrent en commettant des petits vols avec l'espoir d'être arrêtés. Et ils le sont, parce que je pense que l'État se rend compte.
Oui, mais ce qui m'a surpris dans cette démarche-là, c'est qu'un Japonais fasse quelque chose d'illégal, quoi.
Oui, tout à fait.
Pour en arriver là. Enfin, on imagine un peu dans quel état de détresse ils doivent être.
Exactement.
Pour aller jusque-là, tout de même, quand même.
C'est étonnant, ça. C'est tragique, quand même. Voilà. Et ce phénomène-là des vieux en prison, je dirais, ce sont plutôt les vieilles en prison, car ça touche particulièrement les femmes.
Les femmes, plutôt, d'accord.
Voilà.
Okay.
Bon, je vous propose une pause musicale vietnamienne.
Oui.
Et c'est le groupe s'appelle Saigon Soul Revival.
Alors.
Et la chanson s'appelle Tic Naxi.
Ok.
C'est un petit peu rétro.
D'accord. Écoutons ça.
Đem tiếng tơ dẻo niềm lưu luyến, ta đem tiếng tơ giang hồ khắp nơi. Vì đàn cùng ta sống vui triền miên. Trong đêm tiếng tơ reo buồn thương thế, ai ơi biết chăng ta sầu u ê. Vì đàn cùng ta đã lắm lê thế, đàn cùng ta sống kiếp giang hồ mặc thời gian để tơ lòng xe. Ta mang đàn đi, ta mang đàn đi, nào ai biết chi đàn cùng ta sầu khóc.
Alors, vous êtes toujours sur Asialogie, alors avec ce petit air rétro, effectivement, vietnamien qui est rigolo, j'ai apprécié.
Oui, j'aime bien, moi.
Alors, revenons au rétro, mais aux personnes âgées pour les retraites, mais passons cette fois à la Chine. À quelle retraite on a le droit en Chine? Est-ce que c'est mieux que le Japon, la Chine?
Je dirais peut-être.
Ah, peut-être. Alors,
peut-être.
Tu éveilles ma curiosité.
Oui. Alors, la Chine a bâti un système de retraite après la révolution en 1949.
D'accord.
Avant, bien sûr, c'était la famille, hein, comme au Japon, okay, selon les principes confucianistes.
Bien sûr.
Et c'est vers 1950 que sera mis en place des pensions pour les travailleurs et les employés des entreprises d'État, mmh, où l'emploi était garanti à vie, comme les avantages sociaux.
Mmh.
C'était ce qu'on appelait le bol de fer.
D'accord.
Alors, il y en a qui disent le bol d'argent et qui avait effectivement fonction du poste qu'on occupait.
Ah oui.
Du bol d'or.
Oui, c'est d'accord. Oui, bien sûr.
Okay, mais c'est
le métal
symbolique
change selon la
bon,
hauteur du poste.
Un bol de fer, c'est solide.
Ok.
Mais
c'est
ce
vrai
système va rester longtemps limité aux villes et excluait la population rurale.
Là aussi.
C'est exactement. C'est en 80 que la Chine va créer un système de retraite fondé sur des cotisations,
mm-hmm,
qui sera progressivement élargi à toute la population.
D'accord.
Ainsi, le système chinois s'est vite développé, mais en intégrant que ce système du bol de fer n'était pas viable à long terme. Il s'en était rendu compte,
d'accord,
très vite.
Il savait déjà.
Alors, l'année 97 a été une date charnière, hein, avec l'instauration d'une division entre une part publique financée par répartition, comme mm-hmm, nous, et une autre assurée par des comptes individuels. Donc, en fait, ils sont un peu plus en avance,
ouais,
même si nous, on commence à s'y mettre.
Une sorte de capitalisation, c'est ce que tu veux dire.
C'est ça, okay, exactement. Et c'est seulement en 2009 qu'il y aura la création de régimes de retraite pour les ruraux et les travailleurs.
2009 ?
Oui.
Ah oui.
Et la création de régimes de retraite pour les résidents, oui, ruraux donc, et les travailleurs, c'est ça que je voulais insister, les travailleurs migrants des autres régions,
oui,
ils sont appelés les migrants,
d'accord, hein,
d'une région à une autre.
Oui.
Avant, ils n'avaient pas le droit de se déplacer, maintenant ils ont le droit,
mm-hmm,
et on les appelle les migrants. Donc en résumé, aujourd'hui, le système de retraite chinois repose sur un régime de base,
mm-hmm,
financé par les cotisations des employeurs et des salariés,
d'accord,
pour les zones urbaines et rurales, et repose aussi sur des régimes complémentaires facultatifs, proposé par les entreprises, avec en plus des retraites complémentaires volontaires privées, encore peu développées.
Okay.
Donc, trois aspects, je dirais, de financement de la retraite. Alors, l'objectif de ce système est d'adapter l'adapter aux défis démographiques, notamment ceux qu'ils connaissent aussi, le vieillissement rapide de la population.
Oui, c'est ce problème-là aussi, oui.
Mais malgré ces avancées, la couverture reste inégale entre travailleurs urbains, pour qui ça se passe plutôt bien,
okay,
ruraux et les migrants internes.
Mmh.
Donc les migrants chinois eux-mêmes d'une région à une autre.
D'accord. Donc ils ont aussi des problèmes alors.
Bah oui Didier, depuis 2020, ils ont en gros le même contexte démographique que nous,
oui,
mais en pire, car bien qu'il ait été repoussé en 2024,
oui,
l'âge de départ à la retraite est toujours plus précoce en France qu'en France,
ah bon,
en Chine. C'est 60 ans pour les hommes,
ah bien,
55 ans pour les femmes cadres,
ah,
50 ans pour les ouvrières et employés manuels.
Ah oui, dis donc.
Et oui.
50 ans?
Et oui. Et le plan prévoit de relever progressivement l'âge de départ à la retraite à 63 ans pour les hommes,
ouais,
58 ans pour les femmes cadres, 55 ans pour les femmes ouvrières. Voilà.
D'accord.
Et ça, c'est prévu entre 2025 et 2039. Donc, effectivement, de ce côté-là, c'est les séquelles du communisme.
On l'imagine bien, bien sûr. Ah.
Voilà, c'est quand même assez favorable. On part en retraite de bonne heure en Chine. Alors, parallèlement, la durée minimale de cotisation requise pour obtenir une pension à taux plein devra augmenter progressivement de 15 à 20 ans. Ça aussi. Oui. C'est-à-dire qu'à 15 ans, tu peux. 15 ans, tu
t'as
pouvais
un taux plein.
Jusqu'à cette année prétendre à une retraite à taux plein.
Ah, mais je signe, moi.
Oui! Voilà, donc ça va passer à 20 ans.
D'accord.
Donc leur système est plutôt favorable, mais le financement est sous tension, avec des inégalités de couverture, ça quand même, pour les ruraux qui ont une couverture beaucoup moins complète que les urbains salariés.
D'accord. Alors, tu as des chiffres récents à nous donner par rapport à tout ça aussi ?
Oui, alors en 2024, on comptait environ 1,4 milliard d'habitants en Chine, dont environ 328 millions de retraités. Donc la proportion est
quand même
inférieure qu'au Japon.
Tout à fait.
Les montants des pensions varient fortement selon le statut professionnel antérieur. Ça, il faut appuyer là-dessus. Les fonctionnaires bénéficient des pensions les plus élevées, avec une moyenne d'environ 1200 euros quand même. Et les salariés affiliés au régime de base perçoivent une pension nettement plus modeste, en moyenne, de 420 euros.
D'accord, mais c'est quand même plus que le minimum du Japon.
Exactement, et la vie est quand même moins chère.
C'est ce que je pense.
Un petit peu moins chère. Et pour les retraités issus des régimes ruraux, alors là, ça se gâte, ou sans emploi stable, la pension ne dépasse pas 30 euros, 30 à 50 euros, largement insuffisante pour vivre sans soutien familial.
Oui,
il faut retenir que les employeurs, quand même, ça aussi c'est important de le signaler, versent en moyenne 16% de la masse salariale et les salariés 8% de leur salaire. C'est une proportion quand même plus importante pour l'employeur. Et c'est sur des comptes individuels le versement du salaire. Les 8% des salariés. À cela s'ajoutent des subventions de l'État pour soutenir les régimes ruraux et des provinces les plus pauvres. Donc c'est 30 euros de base avec un peu plus avec les aides gouvernementales. Alors, mais malgré tous ces ajustements, le système de retraite chinois est très fragile. Et c'est l'un des enjeux socio-économiques déterminants pour l'avenir du pays.
Ah oui, tout de même.
Oui.
D'accord.
Oui.
Alors, Corinne, on a fait le Japon, on a fait la Chine, on va continuer notre petit tour habituel. Allons en Corée. Alors, du fait de son histoire récente, qu'on a déjà évoquée ici de nombreuses fois, les personnes âgées ne doivent certainement pas avoir une grosse retraite, non ?
Oui, en quelques mots, c'est ça, Didier. La Corée du Sud a été marquée par la guerre et un développement économique très récent. Et c'est seulement en 88, avec la démocratie, qu'un système national universel de retraite a été mis en place. Avant, dans les années 60, il n'y avait que les fonctionnaires, les militaires et les enseignants qui avaient des pensions.
D'accord.
Alors comparé au Japon, la Corée du Sud a donc un système plus récent et performant, et comparé à la Chine, elle l'a construit de manière plus généralisée dès le départ.
Oui.
Ils ont prévu, avant 88, c'était la famille, bien sûr, qui était la principale source d'aide.
Comme partout, bien sûr.
Et les personnes âgées allaient souvent vivre chez les enfants ou les enfants chez les parents.
Oui.
Mais en Chine aussi, ça se faisait beaucoup.
Oui.
C'était plusieurs générations sous le même toit. Et la mise en œuvre du système de retraite en Corée donc a commencé en janvier 88, d'abord pour les entreprises de plus de 10 salariés, pour s'étendre ensuite à toute la population.
Très bien.
Alors le système fonctionnait sur un modèle de répartition aussi, avec un fonds d'épargne national investi sur les marchés financiers. Ça, c'est original. Et ça rend ça assez stable sur le long terme.
D'accord.
Ils ont plus de sous que nous d'avance.
Oui, je ne suis pas très économiste, moi.
Et en parallèle, des régimes complémentaires privés sont apparus pour un supplément de revenus à laquelle, bien sûr, on adhère si on veut. Alors, dans les années 2000, le système de pension de base inconditionnel a été créé pour soutenir les personnes âgées qui n'avaient pas ou très peu cotisé. Oui. Mais beaucoup d'entre eux restent en situation de pauvreté, de précarité même, et dépendent encore fortement de leurs proches.
D'accord. Là encore, Corinne, as-tu des chiffres à nous donner pour la Corée ?
Oui. Le taux de cotisation obligatoire est de 9% du salaire partagé, ça c'est encore différent, 9% entre l'employeur et l'employé. Alors ce taux a été augmenté depuis le 1er janvier 2006 pour atteindre 13%.
2026
2026,
d'accord.
Pardon. Atteindre 13% en 2033.
Ah oui.
Donc 6,5 pour les employés et 6,5 pour les employeurs. Ça augmente. Voilà, donc cette réforme vise à faire face aussi au vieillissement de la population. Mmh. Et grâce à ces ajustements, la projection estime que l'épuisement du Fonds national, qui était prévu pour 2055-2057, va être retardé en 2065-2071. Donc ils s'en sortent plutôt bien.
Ouais, je trouve, oui.
Alors l'âge légal est fixé à 65 ans, avec la possibilité d'une pension réduite en partant plus tôt et d'avoir un supplément en partant plus tard. Voilà, donc un peu comme chez nous aussi.
Oui, ça.
Parallèlement, il y a une pratique de baisse de salaire dans les années précédant la retraite. Ce qui, alors pourquoi ça, je ne sais pas. J'imagine que c'est pour que la retraite soit moins élevée. Ce qui entraîne un taux élevé de pauvreté chez les seniors, bien sûr.
Oui.
Et on estime qu'environ 38% des personnes âgées de plus de 65 ans vivent sous le seuil de pauvreté en Corée du Sud.
38%, c'est énorme.
Voilà. C'est très élevé parmi les pays développés.
Oui.
Et bien que les fonds nationaux soient très bien gérés, le vieillissement de la population très rapide, la diminution du nombre des actifs, la Corée va faire face, faire des réformes.
C'est les champions du monde de la non-natalité, donc
voilà,
forcément,
c'est ça.
Ça va pas aider.
Alors sur le plan des montants de retraite, la pension moyenne mensuelle est de 400 euros par mois, avec de grandes disparités selon la durée de cotisation et le niveau de revenu avant la retraite. Ce qui explique donc la précarité chez les seniors, et les seniors travaillent encore comme ils le peuvent.
Ouais, j'imagine bien, oui.
Bon, on fait une pause musicale,
oui,
Didier,
on va
c'est
faire
toi
ça,
qui l'as trouvé.
Oui.
Ça a un lien avec les Boat People,
voilà,
c'est ça.
Voilà, c'est un chanteur qui nous fait une chanson sur les Boat People. Ce chanteur, en fait, raconte une histoire familiale, donc je vous laisse profiter de cette pause.
40 years ago, doctor left on a boat. He'd never seen the snow or felt it in his hand. Sail until you see dry land. I can't get off the news, can't get off my floor. The good folks go inside when we need you most. What do prayers do behind locked doors? Tuan went back to rebuild, only to watch Saigon fall. Now he climbs a Mont Royal, he makes a life in Montreal. Donated winter coats and Barbie dolls.
Oui, Didier, merci pour cette chanson un peu courte, malheureusement.
Oui, on n'a pas le temps d'en profiter pleinement, oui, voilà, c'est ça.
Donc on est toujours sur Radio Alpa avec Asialogie. Donc en 1975, donc en 2025, ça faisait 50 ans, hein, c'était la fin de la guerre du Vietnam. Mais c'était aussi l'époque qui a vu fuir des centaines de milliers de personnes par la mer avec les Boat People.
Bien sûr.
Raconte-nous un peu cette histoire qui fait partie intégrante de celle de Médecins Sans Frontières.
Tout à fait. Alors l'expression Boat People désigne les milliers de réfugiés d'Asie du Sud-Est qui ont dû fuir leur pays par la mer à partir de la fin des années 1970. Ça l'a fait suite aux guerres et aux changements de régime politique et aux persécutions qui ont suivi. C'est l'un des plus grands drames humanitaires de la fin du XXe siècle. Pour comprendre la crise des Boat People, il faut reparler des guerres d'Indochine liées à la décolonisation, à la guerre froide, on en a déjà évoqué.
Oui.
Le Vietnam, le Laos, le Cambodge, anciennement sous domination française, étaient les terrains d'affrontement entre les régimes communistes, les forces soutenues par les États-Unis. Bon, après la guerre du Vietnam, les régimes communistes s'étaient installés aussi au Laos, au Cambodge, avec les Khmers rouges, avec la mise en place de camps de rééducation qui étaient, où étaient envoyés les anciens fonctionnaires, les militaires, les intellectuels, les opposants. Ces persécutions, ils les ont contraints à fuir, en fait, tout simplement.
Alors, pourquoi par la mer, Didier ?
Eh ben, c'est simple, là aussi. Toutes les frontières terrestres étaient fermées et très surveillées. La mer était donc la seule issue possible. C'est ainsi qu'est née la crise des boat people, qui pouvaient être dans des bateaux de pêche, dans des jonques, dans des embarcations artisanales, parfois des navires surchargés. Enfin, j'imagine qu'encore aujourd'hui, ça vous parle, tout ça. Les principales destinations étaient la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines. Les traversées pouvaient durer plusieurs semaines, hein, sans certitude d'arriver à destination. Vous l'imaginez bien, là encore, beaucoup de bateaux ont disparu sans laisser de traces. On estime que des dizaines de milliers de personnes sont mortes en mer de faim, de soif, de maladie ou noyées tout simplement. Et celles qui ont survécu se sont trouvées face à des violences humaines extrêmes, victimes de pirates dans le golfe de Thaïlande, avec des viols, des meurtres. Enfin, toute la cruauté humaine était là.
Oui, c'est ce qu'on vit actuellement en Méditerranée.
Exactement.
Alors, quel a été le rôle de la France, Didier ?
Alors, la France a joué un rôle important, hein, et se sentait moralement concernée par le sort des populations issues de ces anciennes colonies.
Oui,
mais
normal.
Cela a été tardif. C'est la diffusion d'images de bateaux surchargés. Moi, je les ai encore en mémoire. Des témoignages de naufrages, de violences.
Et
la situation dramatique. Oui, j'étais petit, mais je me souviens des réfugiés dans les camps surpeuplés qui ont fait réagir des intellectuels et des médecins et qui vont alerter l'opinion. C'est seulement en 1979 que le navire humanitaire L'Île de Lumière, certains auront connu un titre de chanson, affrété par Médecins Sans Frontières, va porter secours à des boat people en mer de Chine méridionale. Des milliers de personnes seront sauvées.
Le rôle de la France, c'est pas arrêté là, Didier ?
Non, car entre 1975 et le début des années 90, la France va accueillir environ 120 000 réfugiés d'Indochine et a été l'un des premiers pays d'accueil en Europe pour aider ces réfugiés. L'État français a aidé par des associations et des collectifs locaux qui avaient coordonné des programmes d'accueil avec des centres d'hébergement complétés par des dispositifs d'apprentissage du français, accès à l'emploi, etc. etc.
Et dis-nous quelques mots sur la création de Médecins Sans Frontières.
Alors, c'est justement pendant la guerre du Biafra au Nigeria et suite à la famine qui a suivi avec son million de morts,
oui,
que des médecins français,
ça.
Oui bien sûr, ont été envoyés sur place par la Croix-Rouge entre 1967 et 70. Parmi eux, Bernard Kouchner, qu'on connaît bien, Xavier Emmanueli, qui fondera plus tard le SAMU Social. Ils ont découvert là-bas l'ampleur de la catastrophe humanitaire et aussi le silence imposé par la neutralité de la Croix-Rouge, qui interdit toute dénonciation publique des crimes, des responsabilités politiques. Pour eux, soigner sans témoigner n'était pas acceptable. C'est pour ça, en 71, ils ont fondé Médecins Sans Frontières avec des journalistes pour intervenir rapidement dans les zones de guerre ou de catastrophe pour témoigner publiquement des crimes observés. De petites organisations peu reconnues à l'international, MSF a basculé dans une autre dimension avec la crise des boat people. Voilà.
Bon Didier, on en sait un peu plus sur
comment
MSF.
C'est rapide pour un tel sujet,
connaître.
Mais c'était important d'en parler.
Oui, c'est ça. C'était il y a 50 ans.
Voilà.
Et quelques mois.
Voilà. C'est ça.
Bon, Asialogie, les amis, c'est fini. Oui. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter le samedi matin à 9h30 et bien sûr le mercredi à 13h.
Oui.
Et bien sûr en podcast sur radioalpa.com. Rendez-vous jeudi prochain à 12h, toujours sur Radio Alpa. Salut.
C'est
à la
avec grand
prochaine.
Plaisir qu'on vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Thank you.